Géopolitique.
We've learned again that democracy is precious.
Analyse.
Postez le combat.
Débat. Périscope, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Périscope, le podcast du CESM. Si vous vous plantez au bord du littoral, vous allez peut-être voir au large les fameux tankers, ces gros transporteurs qui sillonnent les eaux de la planète 24 heures sur 24. Il suffit d'ailleurs de voir un jour une carte digitale du trafic en temps réel pour s'apercevoir que dans des zones comme la Méditerranée, eh bien, il est quasi impossible de déceler la moindre goutte d'eau tellement il y a de navires en circulation. Mais en reprenant l'image du plagiste qui regarde la mer, il y a peut-être quelque chose d'antinomique. Nous essayons, comme nous pouvons, de préserver notre planète et pourtant, ces immenses tankers crachent du gasoil dans la mer chaque seconde. Les objectifs climatiques ont certes pour ambition de décarboner ce trafic maritime, mais comment y arriver? Par quels moyens? À quelle date? En substituant quel carburant? Et puis, élément nouveau, la guerre en Ukraine ainsi que la crise Covid ont aussi perturbé les enjeux de cette souveraineté. Le trafic maritime, on en parle dans Périscope avec mes invités. Bonjour à Édouard Louis Dreyfus.
Bonjour.
Président du groupe Louis Dreyfus Armateur. Nous sommes en ligne à Marseille avec Jean-Emmanuel Sauvé, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Président d'Armateurs de France et Cyril Poirier-Coutancet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CESM, auteur de nombreux ouvrages et récemment de la relocalisation du monde chez CNRS Éditions. Alors justement, commençons par le commencement, Cyril Coutancet, cette relocalisation du monde, c'est quoi exactement et peut-être avant de parler de ça, que représente le trafic maritime aujourd'hui quand on parle de ces fameux tankers que je regarde au bord de ma plage?
Alors le trafic maritime, c'est 90% des échanges mondiaux en volume. Donc c'est considérable, tout le commerce international passe par la mer. Et je pense qu'il faut, pour avoir une idée claire, c'est à la fois donc les jouets qu'on va acheter, évidemment, c'est aussi les hydrocarbures, on en parle quand même assez souvent en ce moment. Et puis un élément qu'on oublie parfois, c'est les matières premières. Le blé, qu'on a évidemment à l'esprit en ce moment aussi, mais aussi les métaux, le cuivre, etc. Pour donner peut-être une idée des proportions, le transport maritime, c'est 50%, donc le transport de matières premières, des vracs, un tiers d'hydrocarbures, à la fois donc le pétrole et puis le gaz, hein, de plus en plus, le GNL. Et puis le restant, donc, ce sont les porte-conteneurs qui finalement représentent une toute petite partie du transport maritime au regard du reste.
Édouard Louis Dreyfus, vous qui êtes d'une grande lignée d'armateurs, pour compléter ce qui vient d'être dit.
Effectivement, le transport maritime, c'est plus de 90% des échanges mondiaux, mais dans le maritime, il y a aussi les activités industrielles qu'il faut ajouter, à savoir par exemple les câbles sous-marins. 95% des échanges numériques dans le monde passent par des câbles sous-marins. Oui. Ça fait partie de ce qu'on appelle le maritime au sens large.
Conférer le podcast Périscope sur les fonds marins, où nous avons beaucoup parlé de ça justement. Ouais. Je parlais de ces gros tankers, alors question candide, la consommation d'un tanker c'est quoi? Et l'évolution surtout, parce qu'on imagine bien qu'un bateau, en tout cas on espère qu'un bateau de 2022 n'a pas la même consommation qu'un bateau d'il y a 100 ans, Jean-Emmanuel Sauvé.
Oui, bien sûr. Ce qui fait une grande différence, c'est la vitesse des navires, bien sûr. Et ça, c'est pas Édouard Louis Dreyfus qui va me contredire. C'est un combat de son père depuis de très nombreuses années. Effectivement, moins un bateau va vite, moins il consomme et moins il émet, notamment de CO2. Par contre, évidemment, c'est l'économie du monde. Vous parliez tout à l'instant de l'importance de l'économie maritime dans l'économie mondiale. Donc, c'est l'économie du monde qui fait qu'effectivement il faut qu'on aille assez vite, malgré tout. Donc il y a un équilibre à trouver, qui est loin d'être facile, mais bon, il y a plus d'un siècle, on transportait nos marchandises à la voile, hein. Bon, on terminait en fait ce passage de la voile à la vapeur. Et à l'époque, bien sûr, les grands clippers, hein, que tout le monde connaît, allaient beaucoup moins vite que les navires actuels.
Question, alors là, complètement candide, le retour à la voile, c'est pas possible, rassurez-moi.
Écoutez, moi je fais partie de ceux, il y a 35 ans, qui ont remis au goût du jour la voile au niveau des navires de croisière. Donc on a construit en France 6 paquebots bateaux à voile. On a réinventé tout ça, et notamment le Ponant qui navigue toujours, donc et le Club Med 2 par exemple, qui a parcouru chacun 1,5 million à la voile en 30 ans. Comme quoi, oui, on revient progressivement à cette notion. Alors bon, on se cherche encore un peu, hein, donc il faut qu'on trouve les technologies véliques qui nous permettent de propulser nos navires, mais on y revient, oui, effectivement, tranquillement.
Edouard Louis Dreyfus.
Oui, Jean-Emmanuel Sauvé parlait d'équilibre à trouver, c'est absolument exact, parce que les économies de carburant dépensées n'est pas linéaire en fonction de la vitesse. C'est-à-dire qu'un bateau qui navigue à 14 nœuds, lorsqu'il réduit sa vitesse de 10, 12, 15 %, voit son économie de carburant monter de près de 30 à 40%. Donc il y a une espèce d'effet de levier inversé qui incite beaucoup les navires à réduire de quelques nœuds pour beaucoup réduire leur consommation.
Oui, Cyril pourrait compenser.
Oui, je pense que sur cette question de la décarbonation des navires et donc du type de propulsion qui pourrait être alternative, il faut que les auditeurs aient en tête une chose, c'est que on est, pour les automobiles, on pense spontanément qu'on va passer à la voiture électrique, etc. Ce qui est vrai,
La voiture à voile, on pourrait y penser, mais c'est plus compliqué pour les tunnels notamment.
On pourrait y penser, effectivement. La difficulté pour les navires, c'est évidemment leur poids. Et donc, la solution d'une propulsion à batterie électrique ne peut pas fonctionner pour les navires. Donc, toute la difficulté, tout l'enjeu pour les années à venir, c'est d'arriver à des propulsions qui soient alternatives. Alors, on a un groupe comme CMA-CGM, par exemple, qui a choisi une solution de transition, on va dire, par une propulsion GNL, mais qui les solutions définitives, elles sont encore à inventer, puisqu'on travaille à la fois sur l'hydrogène, sur l'ammoniac, mais on n'a pas, pour l'instant, c'est un peu comme dans l'aviation, dans le transport maritime, on est en train d'inventer, en tout cas, la propulsion décarbonée qui sera en place d'ici quelques années.
Cyril Coutancet, on a une décision qui vient de tomber pour les automobiles, puisque vous parliez de la voiture électrique. L'impossibilité de produire et de vendre des voitures thermiques à partir de 2035, est-ce qu'il y a les mêmes préconisations ou des choses semblables pour les bateaux ?
Alors, on a une organisation internationale, l'Organisation Maritime Internationale, qui régit le transport maritime et qui a effectivement sorti des normes. Et donc, c'est plus en termes de normes d'émissions. Mmh. Et donc, c'est ce qui oblige, par exemple, les armateurs à passer au GNL. On est sur des systèmes comme ça. Mais l'Organisation Maritime Internationale est consciente que pour l'instant, il n'y a pas de solution alternative crédible aujourd'hui, donc on est sur plus quelque chose, une dynamique. Et puis sur la fin des moteurs thermiques, effectivement, c'est une décision pour les automobiles, c'est une décision qui a été prise uniquement au sein de l'Union européenne. Oui. On n'est pas encore sur une norme mondiale. Et tout l'enjeu du transport maritime, je crois qu'il faut que nos éditeurs aient ça en tête aussi, c'est que c'est un enjeu mondial. C'est-à-dire, on ne peut pas seulement imposer aux armateurs européens une norme et pas aux autres armateurs dans le monde, puisqu'il y aura des différentiels de concurrence qui vont être
énormes.
On va
y venir à cet enjeu mondial justement avec vos recherches, Cyril Coutancet, Edouard Louis Dreyfus, ça doit vous soulager qu'il n'y ait pas une décision comme ça. Les constructeurs automobiles en ce moment s'arrachent les cheveux de la tête pour savoir comment est-ce qu'ils vont faire.
Non, il n'y a pas de décision. Enfin si, il y en a quand même. Il y a eu en 2020 déjà une limitation des émissions de certaines substances sur les navires qui ont dû réduire, donc baisser le contenu de soufre dans le fuel. Donc ça a pas mal perturbé l'équilibre du maritime en général à partir de 2020. Il y a un nouvel objectif qui est en 2050 pour une grosse, très importante réduction des émissions de carbone, pour le coup, de la part des navires.
Ah oui, quand même. Donc
il y a des benchmarks, il y a des benchmarks, il y a des objectifs. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Personne n'a encore la solution miracle. Et donc c'est un espèce de travail collectif. Tout le monde recherche la solution, fait des essais. Alors, on parlait d'ammoniac et d'hydrogène.
Ouais.
Il y a également le méthanol, qui est une solution envisageable. Toutes les solutions sont sur la table. On parlait de voile tout à l'heure. On ne pourra pas remplacer entièrement les moteurs des navires par de la voile. Par contre, la voile ou autre appendice d'aide à la propulsion peuvent, non pas remplacer, mais réduire l'impact carbone en réduisant la consommation d'énergie fossile.
C'est comme les panneaux solaires
fossiles
sur les maisons. Ça ne peut pas non plus entièrement chauffer la maison, mais ça peut aider à le faire.
Ouais, aujourd'hui, toutes les solutions sont sur la table. Tout le monde est au travail pour essayer de trouver une solution qui servira à la globalité du transport mondial.
Donc armateurs, professionnels, constructeurs de navires également.
Absolument tout le monde.
Ouais. Ouais. Jean-Emmanuel Sauvé, justement, sur ce petit point de détail, un navire comme le Club Med 2, sur, je ne sais pas moi, on va dire 1000 km de trajet, il fait combien en voile? Plutôt 50 ou plutôt 500? Ça dépend du vent, vous allez me dire.
En fait, la question du vent, moi je l'ai pratiqué effectivement pendant 30 ans, donc sur le Ponant qui est sorti un an avant le Club Med 2, donc ce sont deux bateaux français qui flottent, le pavillon français flotte toujours sur ces navires 30 ans après, donc il y a un gros retour d'expérience d'un million de milles, donc vous voyez, c'est pas quelques milliers de kilomètres, c'est un million de milles parcourus par chacun de ces navires. En fait, le retour d'expérience, bon, évidemment c'est le vent. Il faut trouver du vent favorable pour pouvoir propulser les navires. Après, c'est la force du vent, bien sûr, qui joue aussi beaucoup. Il n'en faut pas trop parce que du coup, il faut réduire la voilure, c'est le terme, ou pas assez. Pour effectivement, il en faut pour se propulser. Là aussi, c'est une question d'équilibre. Et puis après, c'est une question de zone de navigation. Moi, qui ai pratiqué beaucoup avec le Club Med 2 aussi, la navigation dans les Antilles, par exemple, c'est absolument merveilleux. Surtout quand vous êtes entre les îles, là, il y a les alizés qui souffrent. Mais quand vous êtes sous le vent des îles, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas du tout de vent. Donc pour propulser votre navire, il faudra relancer le moteur. Donc au global, on peut considérer qu'il y a une bonne vingtaine, 15-20% d'efficacité vélique, mais ce qui est énorme sur la durée, puisque là, effectivement, Edouard parlait des engagements environnementaux de l'OMI, l'Organisation Mondiale Maritime Internationale. Et donc ces engagements, donc là, effectivement, il y a 40%, il y a 50%, et là, on voit déjà sur ce type de navire qu'on peut presque gagner la moitié uniquement par la propulsion vélique.
Édouard Louis Dreyfus, quand on parle de voitures thermiques versus électriques, il y a évidemment des lobbies assez puissants d'écologistes. On les connaît, il y a certaines études, il y a l'AVER, il y a des entités qui sont là en disant faut arrêter les voitures thermiques, il faut vraiment passer à la voiture électrique. Est-ce que vous, dans votre domaine, il y a également des lobbies, des groupes écologiques qui vous disent arrêtez tous ces bateaux en mer?
Il y en a. Alors les lobbies aujourd'hui touchent aussi beaucoup les navires à quai qui consomment du gazole quand ils sont à quai pour faire tourner leur générateur. Donc on parle de plus en plus de bateaux qui peuvent se brancher à quai pour être alimentés électriquement et non plus par leur générateur. Donc oui, il y a des lobbies. L'OMI ayant devancé l'appel, on s'est déjà fixé des objectifs de réduction, comme l'a dit Jean-Emmanuel, de 40 puis 50% d'émissions. Il y a d'autres solutions aussi. Vous parliez de batteries. Dans les voitures, on ne peut pas avoir de batterie à bord des bateaux qui remplacerait complètement les propulsions
thermiques.
Thermiques, voilà, c'est le mot que je cherchais, thermiques. Mais on a par exemple un SOV, deux SOV pardon, en flotte en ce moment, qui s'occupent de maintenance de champs en lien offshore, qui sont hybrides avec des batteries.
Donc on y vient.
La batterie n'a pas vocation à remplacer le moteur thermique. En revanche, la batterie donne un temps suffisamment important d'autonomie au navire en cas de panne pour des navires qui travaillent dans des endroits extrêmement sensibles, par exemple au milieu des champs éoliens. En cas de panne de moteur, ça permet au navire d'avoir l'autonomie de sortir du champ et de se mettre en sécurité. On y vient petit à petit, ça ne remplacera jamais les moteurs thermiques, mais quand on disait tout à l'heure que toutes les solutions sont sur la table, réellement toutes les solutions sont sur la table, effectivement.
Bon, ça veut dire qu'on avance quand même dans la décarbonation des navires. Cyril Coutancet, je le disais, vous êtes l'auteur de La relocalisation du monde. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer par ce livre, et qui est d'ailleurs en lien direct avec notre sujet du jour, avec le transport maritime?
Mais en fait, c'était surtout une analyse et m'intéresser à un mouvement structurel, pour le coup, de l'économie, puisqu'on a eu, pour faire simple, 30 ans de globalisation, et on assiste effectivement, depuis la crise financière de 2007-2008, à une localisation, donc une relocalisation de la production industrielle dans des grandes aires régionales. Donc, en gros, pour faire simple, on va produire en Europe pour servir le consommateur européen, produire en Asie pour servir le consommateur asiatique. Donc ça, c'est un mouvement structurel qui est en cours et qui, finalement, impacte assez peu le transport maritime, parce que, comme je le disais en préambule, le transport maritime, c'est 50% de matières premières. 50%, c'est le transport de matières premières. Un tiers, c'est les hydrocarbures qui vont encore durer un certain moment, parce
qu'on n'a pas trouvé la solution alternative.
C'est pas demain qu'on pourra se priver de gaz, de pétrole, etc. Et puis, du point de vue des conteneurs, c'est un mouvement, ce mouvement de relocalisation pourra affecter les grandes lignes transatlantiques, transpacifiques. C'est un peu ce qu'on est en train de voir d'ailleurs, et ça c'est un mouvement intéressant sur les commandes de porte-conteneurs, puisque depuis l'année 2020 globalement, on a beaucoup plus de petits porte-conteneurs, hein, des 8000 boîtes qui sont commandées et qui sont en fait ciblées pour justement ce commerce intra-régional. Donc on voit un mouvement qui se dessine où on aura toujours du transport maritime, de toute façon on ne peut pas s'en passer. Je pense souvent cet exemple-là pour illustrer l'importance du transport maritime, c'est dans le domaine alimentaire, c'est pas demain que la France produira du cacao ou du café, donc on aura toujours besoin d'en importer, ouais. Donc on aura toujours besoin de navires et ainsi de suite.
Bah justement, je reste sur votre dernière phrase, on aura toujours besoin de navires. Il y a des solutions terrestres, non? Et si oui, combien ça coûte? Parce que j'imagine que le coût est peut-être plus gros si on utilise que le bateau, vous me dites qu'il y a 90% de l'échange des volumes. Est-ce qu'on a fait la comparaison ou c'est vraiment totalement délirant et du coup on abandonne tout de suite l'idée du train ou du camion?
En fait, c'est en termes de, à la fois de volume et de prix. Moi, il y a une image que j'aime prendre, c'est un porte-conteneur de 24 000 boîtes. Mmh. Hein. C'est l'équivalent d'un train de 350 km de long.
De 350 km de long.
Ah oui. Quand on a ça en tête, on voit les volumes. Et en fait, parce qu'on parle effectivement beaucoup des routes de la soie terrestre, la voie terrestre entre la Chine et l'Europe. Mais en termes de volume, c'est rien du tout. Et ça sera jamais une alternative.
Là aussi, conféré le podcast sur l'Arctique, où effectivement la Chine essaye de passer par le haut, où elle gagnerait 4700 km en mer. Par rapport à sa route du sud.
Et M. Poirier, écoute, on s'est parlé de volume, effectivement, en comparant le porte-conteneur avec un train de 350 km de long. Et on parle des porte-conteneurs qui, en volume, des 90% de marchandises transportées dans le monde transitant par la mer, qui sont les plus petits volumes. Lorsque l'on parle de vraquiers, de capesize, qui sont les très gros vraquiers qui transportent 180 000 tonnes de marchandises, de minerais de fer, par exemple, on voit très bien qu'on ne peut pas transporter ça par le rail ou par la route. Et j'ajouterais qu'il y a une histoire de volume, il y a une histoire de coût, parce que c'est de loin le moins coûteux pour transporter des marchandises, et également une histoire d'environnement, d'écologie, parce que le maritime, malgré tout, reste le moyen de transport le moins polluant à la tonne transportée.
Ben, je voulais justement venir à ça, parce que votre train de 350 km, il n'est pas forcément, c'est pas forcément un train français et donc nucléaire, ça peut être un train, si ça part de l'autre partie du globe, c'est peut-être un train au gasoil. Donc
Alors ça peut être un train au gasoil, et puis ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que c'est la souplesse qu'offre le transport maritime aussi, c'est-à-dire qu'un porte-conteneur, par exemple, qui va partir de Shanghai et puis qui va gagner Rotterdam, il ne fait pas un trajet en ligne directe. Il va s'arrêter en Inde, il va décharger des conteneurs, en recharger. Donc, il peut desservir un nombre de pays absolument considérable. C'est beaucoup plus souple que le train qui va suivre des rails et donc qui ne pourra pas desservir autant de villes.
Jean-Emmanuel Sauvé, sur cette comparaison entre le maritime et le terrestre?
Oui, absolument. Et je rajouterais même quelque chose. Vous savez, tout à l'heure, je plaisantais à peine en disant qu'on est passé il y a un siècle de la voile à la vapeur. Vous savez, la vapeur, à notre époque, donc on a mis un siècle, en fait. Hein, et ça s'est arrêté il y a un siècle. C'était un processus extrêmement long. La vapeur, pour nous, c'était la chauffe au charbon sur les navires. Alors, il y a fait 70 ans que, bien sûr, on n'utilise plus le charbon pour propulser nos navires. Mais une usine en Chine, par exemple, qui produit l'électricité pour les rails, pour les locomotives qui feraient effectivement Shanghai, Hambourg, bah, y a toute une partie du trajet, effectivement, l'électricité est produite par le charbon. Et on sait très bien tous que c'est cette énergie fossile qui est extrêmement nuisible pour la planète et qui est encore pire, bien sûr, que le gasoil. Alors, c'est là où il faudrait mettre bout à bout, effectivement, le bilan carbone de différentes formules de transport. Et là, on l'a fait, bien sûr, et on est tous convaincus que le maritime, ramené à la tonne transportée, Edouard vient de le signaler, c'est un des transports les plus vertueux au monde.
Cyril Coutancet, on parlait de la souveraineté de la flotte, ça veut dire quoi exactement?
C'est une question qu'on a un peu redécouvert avec la guerre en Ukraine, parce que le transport maritime, il faut avoir conscience qu'en fait on a à peu près 5-6 nationalités dans le monde qui font tourner les navires. Philippins, par exemple, mais aussi ukrainiens et russes.
15%.
Et 15%.
Ouais. 15% de qui?
Des marins dans le monde sont ukrainiens ou russes.
Oui.
C'est énorme. Et donc, ils peuvent être sur des équipages communs. Mais là où la guerre en Ukraine est importante, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte en Europe qu'on est très dépendant, c'est-à-dire qu'on a des armateurs qui sont européens, qui sont propriétaires de navires. Mais dans la construction navale, c'est pas en Europe que se construisent, que se fabriquent les porte-conteneurs. Et on a un enjeu qui est fort aussi, au niveau des méthaniers aussi, mais on a un enjeu qui est fort aussi sur les marins. C'est-à-dire que on a de moins en moins de marins français et européens qui sont sur les navires. Et quand
c'est
on
quoi,
regarde,
c'est une crise des vocations.
Il y a une crise des vocations. C'est un métier qui malgré tout reste dangereux, qui reste dur. On est loin en mer. Le Covid n'a pas arrangé les choses parce qu'on a des navires qui ont été bloqués dans des ports pendant des semaines voire
on l'a
plus.
Subi, ça.
Donc ça n'attire pas les vocations, mais c'est quand même une vraie problématique parce que si un jour la France ou des pays européens devaient se retrouver dans un conflit, il faudrait pouvoir disposer d'une flotte stratégique pour pouvoir aller chercher des matières premières, s'approvisionner, etc. Et disposer d'une flotte stratégique, ça veut dire d'avoir des bateaux, mais d'avoir des marins qui puissent les armer. Je ne pense pas que des marins philippins veuillent s'engager dans une flotte qui pourrait être ciblée par un adversaire. Donc ça, c'est un enjeu qui est devant nous et qui est important, et qui n'est pas forcément pour l'instant mis au centre de l'actualité.
Édouard Louis Dreyfus.
Oui, non, effectivement, il y a eu l'érosion de cette vocation maritime de nos navigants français. Il y a deux choses. Il y a eu effectivement le Covid qui a nos navigants ont payé un très lourd tribut pendant 2 ans avec beaucoup d'incertitudes sur les dates d'embarquement et surtout de débarquement, sur les conditions dans lesquelles ils embarquaient et débarquaient selon les pays, avec des quarantaines à l'embarquement, puis au débarquement, des tests tout le temps, des immobilisations de navires lorsque le navire était malheureusement impacté par le Covid. Enfin, on ne se rend pas compte, mais ce sont vraiment nos navigants, enfin les navigants dans le monde entier, mais là on parle des navigants français, qui ont payé très très cher cette pandémie. Et il y a également les effectifs de l'école supérieure de la marine marchande qui ont réduit petit à petit. Et d'ailleurs, à l'issue du Fontenoy du maritime récemment orchestré sous l'égide de notre ministre de la mer Girardin, a pris la décision de doubler les effectifs de l'école de la marine marchande pour faire face à cette érosion. Donc on est le balancier est peut-être en train de repartir dans l'autre sens avec une réaugmentation, mais c'est arrivé un petit peu tard. Effectivement, aujourd'hui, on est face à une crise par manque de navigants français à mettre à bord de nos navires sous pavillon français. Et c'est effectivement un problème lorsque l'on parle de souveraineté et que l'on veut développer, par exemple, le concept de flotte stratégique. En cas de crise, on l'a vu, avec la guerre en Ukraine, on a le problème des hydrocarbures, mais on se rend compte aussi qu'il y a le problème de l'approvisionnement en blé. Et il y a d'autres, je parlais du numérique tout à l'heure avec les câbles sous-marins. Il y a beaucoup d'éléments, on se rend compte, qui doivent faire l'objet d'une attention particulière pour qu'en cas de crise, la France puisse avoir une autonomie et une capacité de résilience face aux événements du monde.
Tout cela est lié. Jean-Emmanuel Sauvé, crise des vocations des marins qui engendre justement beaucoup de conséquences.
Oui, alors bien sûr, on peut d'un côté se réjouir de voir qu'il y a le plein emploi au niveau du maritime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un marin français aujourd'hui qui cherche un embarquement. Ça n'a pas été le cas bien sûr dans le passé, ça a été beaucoup plus compliqué. Par contre, là du coup, la croissance du pavillon français qu'on appelle de nos voeux, et on travaille beaucoup dans le cadre d'Amateurs de France, et chacun de nos armateurs est très actif bien sûr pour développer sa flotte sous pavillon français, mais avec des marins français. Donc comme l'a fort justement dit Édouard, dans le cadre du Fontenoy du Maritime, on a proposé effectivement de doubler les effectifs de l'école de marine marchande. C'est en train de se mettre en place. Alors bien sûr, ça nécessite beaucoup de changements pour une école ancestrale qui a fêté ses 450 ans l'année dernière. Donc beaucoup de choses doivent bouger sur un certain nombre de sujets, notamment sur les méthodes d'enseignement, sur les moyens dont dispose cette école. Jouer aussi une formule qu'on apprécie beaucoup dans la marine marchande, ce qu'on appelle la promotion sociale. Vous savez, on dit souvent qu'avant d'être capitaine, on peut être matelot. Donc, c'est rarement le cas dans des usines où un ouvrier peut devenir directeur d'usine. On peut dans la marine nationale, bien sûr, aussi beaucoup. Et donc ça, c'est vraiment caractéristique du monde maritime, y compris à la pêche, dans toutes les marines. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait continuer à valoriser pour avoir demain des navires français en plus grand nombre armés par des marins français. Donc c'est un long process, bien sûr, mais nous sommes activement à la tâche.
Cyril Coutançais, vous aviez évoqué un peu en filigrane la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça a fait comme conséquence sur le trafic maritime? Est-ce que ça a été justement un coup, une sorte de coup près immédiat?
Non, pas véritablement. Ce qui a pu se jouer sur le transport maritime, c'est au niveau mondial, c'est la crise Covid, puisqu'on a eu ces fermetures de pays, réouvertures, donc engorgement des ports, etc., etc. Et puis, je crois que pour nos éditeurs, un point à avoir en tête, c'est d'avoir toujours conscience qu'un navire ne se construit pas en un claquement de doigts, parce que c'est vrai que on est dans une économie numérique, on a l'impression qu'on appuie sur un bouton et que tout se résout d'un coup. Quand on commande un navire, le temps qu'il soit mis en chantier, qu'il sorte du chantier, il faut du temps. Donc, entre la flotte mondiale qui était dimensionnée de façon cohérente avant le Covid et l'est toujours, mais simplement, il y avait, avec ces fermetures et ces réouvertures, on a eu un manque de navires à un moment donné. Il y a des navires qui sont commandés aujourd'hui, mais il faut qu'ils arrivent en flotte, et puis ensuite, on pourra avoir à disposition, justement, un nombre de navires suffisant. Mais la guerre en Ukraine, finalement, ça impacte dans l'immédiat, en tout cas, ça a impacté assez peu de choses. Évidemment, la mer Noire a été bloquée, etc. etc.
Oui, Edouard Ludafus, vous parliez du blé, des céréales. Bien sûr, ça, c'est la chose à laquelle on pense en premier.
On en parle beaucoup en ce moment parce qu'on est dans la période de récolte. En fait, on est au moment où le blé, les céréales doivent être récoltées et doivent être exportées par la mer Noire. Aujourd'hui, on le voit, on ne peut pas. Donc, ça pèse évidemment sur les équilibres de flux économiques et on en parle beaucoup. Mais c'est le cas exact de la même manière avec les hydrocarbures. On voit que l'Europe a du mal à s'approvisionner en matière énergétique depuis le début de la guerre, et donc tout ça crée au déséquilibre.
Mais vous parliez justement de 15% de marins qui sont à l'échelle du globe russe ou ukrainien. Du coup, maintenant, avec ce qui se passe, il n'y en a plus ou il n'y a plus de renouvellement de ces marins ?
Non, il y en a toujours et globalement, ça c'est plutôt dans les équipages mixtes, hein, avec Ukrainiens et Russes, ça s'est plutôt bien passé en mer, donc il n'y a pas eu de difficultés majeures. Mais la question des hydrocarbures qui revient effectivement à l'ordre du jour avec le conflit en Ukraine et la nécessité pour l'Europe justement de s'approvisionner par voie maritime, c'est-à-dire par bateau, par méthanier, etc. C'est, là aussi, on est sur des questions d'infrastructure parce que ça veut dire qu'il faut construire des terminaux méthaniers pour accueillir ces navires, qu'il faut un nombre de navires qui soit suffisant en flotte aussi. On voit bien la difficulté qu'il y a aujourd'hui pour l'Union européenne à trouver des nouvelles sources d'approvisionnement, ça c'est un premier point, et ensuite à construire les infrastructures pour accueillir justement ce gaz qui viendrait par voie maritime. Donc ça c'est une problématique qui va nous occuper pendant 2, 3 ans, 4 ans.
Jean-Emmanuel Sauvé, si on vous pose une question assez large sur l'avenir du trafic maritime et in extenso de votre métier, c'est quoi ?
Vous savez, notre métier est ancestral, hein, ça fait très longtemps qu'on va sur les mers, bien sûr, et pour ce faire, il faut des navires, il faut des marins, il faut des armateurs, et puis derrière, c'est l'économie mondiale, en fait, hein, c'est ce monde de marchandises et de personnes, de biens qui circulent, et ça circule beaucoup sur les mers, effectivement, et je pense que ça ne s'arrêtera pas. On peut trouver d'autres formules, on transporte, évidemment, un peu de marchandises en aérien, par exemple, mais on voit que c'est extrêmement limité. On parlait tout à l'heure, effectivement, des contraintes de la route. Bien sûr, moi, je préférais avoir moins de camions sur les routes, hein, c'est évident. Je pense que tous les automobilistes sont comme moi. Et puis, effectivement, bon, ces trains, oui, certes, vous avez fait l'exemple tout à l'heure des 350 km de train par rapport à un porte-conteneurs de grande taille, aujourd'hui, montrent que le maritime a encore beaucoup d'avenir. Edouard parlait, effectivement, des câbles sous-marins, mais on pourra parler de l'éolien en mer. Et bien sûr, c'est une grande spécialité de Louis Dreyfus armateur, où effectivement, c'est bien mieux quelque part. Du reste, le rendement des éoliennes est sensiblement supérieur en mer, au large, avec de l'éolien même flottant, hein, donc qui est une technologie également, donc qui permettrait de pouvoir ancrer plutôt les éoliennes plutôt que de les planter sur les fonds marins. Donc ça, ce sont des techniques qui sont utilisées pour les plateformes pétrolières depuis extrêmement longtemps. C'est une spécialité française, du reste, avec un de nos armateurs, Bourbon, en complément effectivement de ce qui doit se faire après. Pour entretenir, effectivement, ça c'est une spécialité de Louis Dreyfus armateur, entretenir ces éoliennes au large, et puis les grands fonds marins, toute cette exploration qu'on doit faire au fond des océans pour mieux connaître, en faisant, mettons bien sûr des lignes rouges, hein, pour pas faire n'importe quoi comme on a fait sur Terre avec nos fonds marins, mais les océans, c'est probablement notre avenir, nous armateurs, avec toutes nos formules différentes pour aller sur les mers, eh bien on se doit de répondre à cette histoire de l'humanité avec notre métier ancestral.
Mais qu'est-ce que vous dites quand on parle d'éoliennes en mer, on pense en France assez vite au croisic. Et déjà, vous voyez quand même les réactions à terre des habitants qui disent c'est une hérésie. Comment est-ce que vous faites pour dire, écoutez, y a quand même une façon de faire des éoliennes en mer et qui soit pas problématique in extenso pour voilà.
C'est ce que je vous disais en fait, hein, c'est l'éolien flottant qui permet de projeter plus loin en fait les champs éoliens. Je pense que ça c'est une des formules.
Qu'on les voit pas.
Voilà, ils sont beaucoup plus là au loin en mer, donc du littoral on les voit pas. Faut faire attention bien sûr avec les navires, mais bon ça on est assez habitué. Bon attention aux pêcheurs aussi dans certaines zones de pêche bien sûr, mais bon plus c'est loin et puis moins il y a de nuisance. Exactement. Bon maintenant après on s'habitue aussi à terre hein, à voir ces éoliennes. Tout le monde ne sont pas pour du reste, mais bon je pense que c'est indispensable aujourd'hui parce que Par contre, l'éolien flottant, ça a l'avantage, effectivement, et surtout nous, entre Français, on parlait de souveraineté tout à l'heure, on a les armateurs qui peuvent permettre, effectivement, d'aller ancrer ces éoliennes flottantes, de les entretenir, y compris de les construire, effectivement. Donc, c'est moins compliqué pour nous, Français, de le faire entre nous, plutôt que d'aller chercher des services extérieurs pour planter ces éoliennes qui, là, posent davantage de problèmes, bien sûr.
Édouard Louis Dreyfus, sur ces nouveaux métiers.
Écoutez, oui, vous parliez du champ du croisic. Je pense que les oppositions sont encore plus féroces plutôt sur le champ de Saint-Brieuc du fait des retombées économiques. Non, je pense que c'est peut-être un problème assez français aussi. C'est que je pense que si on faisait un sondage, il y aurait une très forte majorité de Français qui seraient en faveur des éoliennes en mer, mais 100% seraient en faveur, mais à condition que ce ne soit pas devant chez eux.
Qu'on ne les voit pas.
Non, pas devant chez eux.
Donc ça, c'est oui, il y a certains observateurs qui disaient qu'il n'y en avait pas au large du Touquet.
Pour l'instant.
Oui.
C'est un problème qu'il va falloir trancher. On a nos pays voisins, dans le nord de l'Europe notamment, ont énormément d'avance sur nous, de l'ordre de 10 à 15 années sur ces éoliennes en mer. Eux ne se posent pas la question de savoir si ça pollue le paysage ou pas. Ils y voient un intérêt environnemental. Ils voient que ça fonctionne avec 10 ou 15 années d'avance. Les consortiums qui développent les champs éoliens, alors que en France, les champs sont encore subventionnés par l'État qui garantit un prix de rachat d'électricité. Aujourd'hui, dans les pays nordiques, au Danemark notamment, les groupes qui développent les champs éoliens le font en pure spéculation parce qu'ils savent que l'électricité produite sera suffisamment rentable. Donc on va y venir. C'est une question de culture aussi, il va falloir qu'on s'habitue. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est le champ du croisic dont vous parliez est le premier à avoir vu le jour et le premier à être aujourd'hui opérationnel. Il y en aura d'autres, et je pense que petit à petit, on va s'habituer à peut-être cette petite cicatrice sur le paysage, et on va se rendre compte que les bienfaits contrebalancent très largement la petite pollution visuelle que ça peut occasionner.
Et l'avenir pour vous aussi, Édouard Louis Dreyfus, à part les éoliennes, les câbles sous-marins dont vous parliez, les nouveaux métiers des armateurs que vous êtes, c'est quoi encore ?
Les nouveaux métiers, l'armateur que nous sommes a vocation effectivement de plus en plus à se développer vers ce qu'on appelle la marine industrielle. Donc c'est tout ce qui concerne la marine de service, donc effectivement la pose de câbles de télécommunication et d'énergie faible puissance avec nos partenaires, Alcatel et également nos partenaires malaisiens d'EMS, pour qui on est en train de grossir la flotte, on est en train de convertir de nouveaux navires qui sont utilisés par eux pour poser des câbles dans les années à venir. On a effectivement vocation à beaucoup se développer dans les énergies marines renouvelables. Nous avons aujourd'hui deux navires en charge de la maintenance d'un champ éolien. J'en parlais tout à l'heure, ces deux navires sont hybrides avec une capacité de propulsion électrique. Ce sont les deux premiers navires au monde à avoir cette capacité. Alors, ça ne remplacera pas les moteurs, mais c'est une première. Et enfin, on a vocation aussi à beaucoup nous développer au service d'un autre de nos grands clients, Airbus, qui eux ont pris la décision, avant même les règles imposées par l'OMI d'émissions, de réduire à l'avance leurs émissions de carbone et ont pour ambition de diviser par deux leurs émissions d'ici 2028 ou 2030, il me semble. Et donc devant cet appel, sont prêts à surpayer en avance le coût que ça nécessitera, pour afficher un bilan carbone fortement réduit. Donc on peut forcément saluer.
Donc pour Airbus, vous faites quoi exactement ? Vous transportez les pièces des avions ?
On transporte toutes les pièces de leurs avions au sein de l'Europe et vers les États-Unis également.
Ben voilà pour ces nouveaux métiers. Cyril Coutancet,
oui, je crois que si on regarde justement dans l'histoire, finalement, il faut se souvenir que le transport maritime a su se réinventer à différentes périodes, jusqu'à l'apparition de l'avion. C'était le transport maritime qui assurait le transport de passagers entre les continents. On se souvient du Titanic et puis toutes ces grandes lignes justement qui reliaient les deux bords de l'Atlantique. C'est un marché qui a complètement disparu avec l'apparition de l'avion.
Qui pourra peut-être revenir.
Et puis surtout qui a su se réinventer, c'est là qu'on a vu apparaître petit à petit les croisières avec une expansion absolument extraordinaire. Et sur les croisières, en plus, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a un marché qui est très varié, puisqu'on a à la fois les grands paquebots de croisières qui sont fabriqués au chantier de Saint-Nazaire, donc qui offrent des croisières, on va dire, industrielles quasiment. Et puis, on a la compagnie du Ponant qui fait de la croisière de luxe, etc. Et puis, il y a les métiers donc qu'évoquait Édouard Louis Dreyfus. De pose de câbles, de maintenance des champs d'éoliennes. Donc, c'est un monde, ce maritime, qui est en capacité de se réinventer et justement de proposer aussi des métiers aux jeunes générations, je pense, qui peuvent être attirants parce que que cette jeune génération qui est, semble-t-il, pour une partie d'entre elles, est prise de lutte contre le réchauffement climatique, et bah, aller travailler sur un champ d'éoliennes en mer, ça peut être quelque chose d'intéressant, en tout cas qui fait sens pour ses envies de lutte contre le réchauffement climatique. Donc je pense qu'il y a un panel de métiers aujourd'hui, en tout cas, qui est intéressant.
Jean-Emmanuel Sauvé, pour conclure de votre côté aussi.
Bah oui, effectivement, j'avais 23 ans quand j'ai créé Ponant, comme quoi à chaque génération d'armateurs, de marins, il peut y avoir des initiatives porteuses d'avenir, et je pense qu'aujourd'hui, tout l'écosystème qui naît autour de nous, tout ce mouvement, ce tournant historique, on pourrait même dire, doit nous permettre, nous, armateurs français, de délivrer un message. Alors on n'aura jamais la flotte la plus importante au monde, hein, probablement pas, par contre on peut avoir la flotte la plus vertueuse, et déjà on est tellement engagé, on parlait de la transport à la voile, du gaz liquéfié, de tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui en tant qu'armateur, on peut avoir un message à délivrer à notre échelle, à l'échelle de la marine marchande française. Voilà, créer une des flottes les plus vertueuses au monde, en tout cas, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés.
Et puis un appel aussi à vocation pour les métiers de la mer, c'est un peu le commandant Cousteau qui disait « For the future generations ». Je me souviens toujours des épisodes sur FR3. Bah oui, puisque la marine recrute, puis les armateurs aussi, hein, Édouard Louis Dreyfus.
Oui, et exactement, c'est peut-être aussi la conclusion. Nous avons la chance en France d'avoir sans doute une des meilleures écoles de marine marchande au monde, qui nous forme des navigants extrêmement bien formés, extrêmement compétents, qui ont peut-être le désavantage d'être un peu plus chers que d'autres, mais qui savent faire des choses extrêmement compliquées, avec un très très gros niveau de compétences. Donc continuons à nous développer vers ce type de marine, un peu sophistiquée, sur lequel la valeur ajoutée de nos navigants prévaut à plein. Aujourd'hui, chez Louis Dreyfus Armateur, par exemple, nous armons 25% des navires câbliers dans le monde entier. Donc c'est une très grosse part de marché, parce qu'ils sont très bons, nos navigants, pour faire des choses compliquées. Ils ont cette vocation-là, donc développons-nous vers ces marines-là, développons-nous vers cette marine vertueuse dans l'optique de la transition énergétique, et je pense que ce sont ces deux armes-là que l'on peut utiliser pour assurer notre souveraineté et la flotte stratégique dont nous avons besoin, et dont on voit l'importance depuis quelques mois entre la pandémie et la guerre en Ukraine.
Merci, merci beaucoup à vous trois, merci à Édouard Louis Dreyfus, merci à Jean-Emmanuel Sauvé, et merci à vous Cyril Poirier-Coutançais. Je rappelle le titre de votre livre, La relocalisation du monde, chez CNRS Édition. On range le périscope, on ferme le banc, et on se retrouve très vite dans Périscope. À bientôt.
Vous venez d'écouter Périscope, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine, présenté par Pierre de Villeneuve. Ce podcast et tous les podcasts du CESM sont disponibles dès maintenant sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur cesm.marine.defense.gouv.fr.